Alexandre Lemaire.
Bonsoir, Volodymyr Zelensky. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le président ukrainien appelle à l'expulsion de la Russie, membre permanent du Conseil, pour lui ôter son droit de veto. Le contrat du siècle pour Ariane Espace. La fusée Ariane va opérer 18 lancements de satellites pour le compte d'Amazon. Ça fait presque 5 mois qu'ils occupent leur usine. Rencontre dans ce journal avec les salariés de la fonderie SAM dans l'Aveyron. Ils se sentent un peu les oubliés de la présidentielle. La météo, attendez-vous à un mercredi bien arrosé, les températures seront stables. L'invité éco, une photo du marché immobilier après 2 ans de Covid avec Olivier Colcombet, président du réseau Optimum. Et avant la libre antenne, les unes des quotidiens demain matin.
Europe 1.
Des images et des mots qui frappent. Reflet de l'horreur en Ukraine, reflet du massacre de Boutcha. Volodymyr Zelensky s'est adressé aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois depuis le début de la guerre. Le président ukrainien a dénoncé des crimes de guerre. Caroline Baudry.
Oui, dans un discours solennel retransmis en direct sur un écran géant dans la salle du Conseil de sécurité, Volodymyr Zelensky a exhorté l'ONU à agir, je cite, immédiatement.
Ici, on a vu des parents assister à la mort de leurs enfants. On a torturé, arraché des langues. Et toutes ces exactions ont été commises par un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Russes violent les frontières internationales, mènent une politique d'épuration ethnique. Maintenant, nous avons besoin de décisions du Conseil de sécurité. Il faut exclure la Russie en tant qu'agresseur afin qu'elle ne mette pas son veto aux décisions relatives à sa propre agression.
Que le droit de veto ne signifie pas le droit de mourir, a déclaré le président ukrainien qui appelle à une réforme du système des Nations Unies. Dans la salle, le représentant de la Russie a contesté dans la foulée les accusations de Zelensky.
Je voudrais simplement profiter de la présence virtuelle ici du président de l'Ukraine et m'adresser directement à lui. Nous soumettons maintenant à votre conscience les accusations sans fondement contre les militaires russes, qui ne sont confirmées par aucun témoin visuel.
Le président ukrainien a tenu à faire diffuser une vidéo dans la salle du Conseil de sécurité. Sur les images, plusieurs corps ou parties de corps de personnes tuées dans son pays. Un fond sonore accentue la dramatisation. Des scènes épouvantables, a réagi l'ambassadrice britannique.
Caroline Baudry, des scènes qui ont convaincu les 27 de prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. Elles seront annoncées demain. En quoi vont-elles consister, Maud Descamps?
Tout d'abord, le secteur de l'énergie, volet majeur de cette nouvelle salve de sanctions. Les 27 veulent arrêter leurs importations de charbon russe. Ça représente tout de même 45% des importations de l'Union européenne. 4 milliards d'euros par an de manque à gagner pour Moscou. Le pétrole russe est également dans le viseur. Des mesures devraient être décidées demain lors du Conseil européen, indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Autre secteur concerné, les transports. Les 27 veulent interdire l'accès aux ports de l'Union européenne, aux navires russes et aux navires exploités par la Russie. Les transporteurs routiers russes sont aussi visés. Il y aura également un renforcement des sanctions commerciales. Bruxelles va interdire pour 10 milliards d'euros d'exportation vers la Russie d'équipements et de composants industriels qui sont cruciaux, comme par exemple les semi-conducteurs. Renforcement aussi dans le secteur bancaire, avec 4 nouvelles banques russes exclues du système de paiement SWIFT. Et enfin, la liste des personnalités dont les avoirs sont gelés va elle aussi être élargie.
Maud Descamps, Washington annonce travailler en coordination avec l'Union européenne et le G7 pour interdire dès demain tout nouvel investissement en Russie. Moscou, de son côté, continue de nier avoir commis des atrocités en Ukraine. Le massacre de Boutcha serait une mise en scène, une provocation, selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, pour faire échouer les négociations entre Kiev et Moscou. J'en viens maintenant à cette énorme commande pour Ariane Espace. Amazon signe pour 18 lancements de satellites au départ de Kourou, en Guyane française. Le géant du commerce en ligne prévoit de mettre plus de 3000 satellites en orbite, un réseau Internet spatial pour offrir une connexion au débit en tout point du globe. C'est l'ambition d'ici à 2030. C'est en fait le contrat le plus important de toute l'histoire des fusées Ariane, Élise Dangean.
Absolument. Alors pour l'heure, aucun montant n'a été dévoilé, hein, mais ce contrat triple quasiment le carnet de commandes d'Ariane 6 avec plusieurs milliards d'euros à la clé et Ariane Espace qui gagne du terrain dans la course à l'orbite basse pour la plus grande fierté de son président exécutif, Stéphane Israël.
C'est évidemment un très grand jour pour Ariane Espace et pour tous ses partenaires, pour toute l'industrie Ariane en Europe. Le marché est en réalité en train d'exploser. La taille du marché pourrait tripler dans les prochaines années. Et le contrat que nous avons signé ce matin en est une première indication extrêmement forte.
Alors les 18 tirs d'Ariane 6 seront répartis sur une période de 3 ans et devraient démarrer courant 2024. Il va donc falloir aller vite, rappelle Philippe Baptiste, le président du Centre national d'études spatiales, car cette nouvelle fusée ne fera son premier vol qu'en fin d'année.
Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on réussisse le premier tir et qu'il faut qu'on gère aussi ce qu'on appelle la montée en cadence du lanceur. Faire peut-être quelques ajustements et puis après lancer une production industrielle à un rythme élevé.
Alors justement, Ariane Espace s'interroge d'ores et déjà sur les cadences car pour l'heure, Ariane 6 n'est conçue que pour 11 à 12 lancements par an.
Élise Dangean.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Plusieurs candidats à la présidentielle ont condamné l'agression de Jeremy Cohen qui a conduit à la mort de ce jeune homme de confession juive percuté par un tramway le 16 février à Bobigny alors qu'il tentait d'échapper à des agresseurs. Une enquête est en cours pour violence volontaire en réunion et devant l'ampleur prise par l'affaire à quelques jours du premier tour, le procureur de Bobigny a tenu aujourd'hui une conférence de presse que vous avez suivie pour Europe 1 Gladys Laffitte. À ce stade, dit-il, le caractère antisémite de l'agression n'est pas établi.
Et non, en tout cas, les témoignages recueillis jusqu'ici par les enquêteurs et notamment celui d'une personne qui a tenté d'aider Jeremy Cohen n'ont pas permis de déterminer les raisons de sa présence à Bobigny ni les raisons de cette agression. C'est ce qu'explique Éric Mattey, procureur de la République de Bobigny.
Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse, de manière apparente ou non, d'une kippa au moment de la scène de violence. J'invite toute personne détenant des informations utiles à l'enquête à entrer en contact avec les services de police.
Des nouveaux éléments qui pourraient établir donc cette circonstance aggravante de l'agression antisémite. Les investigations continuent donc et notamment l'exploitation de cette vidéo amateur de mauvaise qualité que les enquêteurs avaient obtenue 4 jours avant la famille. Et cet appel à témoins donc passé par le procureur de la République pour permettre de faire avancer une enquête qui, laisse-t-il entendre, mobilisait déjà la justice depuis plusieurs semaines.
Et Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Marine Le Pen n'est plus qu'à 2 points d'Emmanuel Macron au premier tour dans les intentions de vote. C'est un sondage Kantar et Poca à 23% contre 25% pour le président sortant. Jean-Luc Mélenchon progresse lui aussi à 16%. Éric Zemmour stable à 11%. Valérie Pécresse en forte baisse à 8%. Le premier tour dans 5 jours donc. Partons maintenant pour l'Aveyron à l'usine SAM, sous-traitant automobile principalement pour Renault. Usine occupée depuis 5 mois maintenant par ses anciens salariés depuis leur licenciement le 26 novembre dernier. La justice a tranché. Depuis ce mardi, la force publique peut les expulser à tout moment. Aujourd'hui, les ex-SAM se sentent les oubliés de cette campagne présidentielle. Aucun candidat n'est venu à leur rencontre, Benjamin Péter.
Oui, pourtant, ils auraient pu être le symbole de la souveraineté économique, de la réindustrialisation. Sébastien Lallier, le délégué CGT, a du mal à comprendre qu'on les oublie, qu'aucun candidat à la présidentielle ne se soit même déplacé pour les soutenir.
On était le candidat idéal pour la réindustrialisation. On était sur des produits hybrides électriques à 50% de notre chiffre d'affaires, comme ce que tout le monde porte, on va dire, dans les différents programmes ou autres. On était là-dessus, donc je pense qu'il y a toute la matière à nous défendre. Il y a moyen politiquement de nous soutenir et parce que je pense qu'on va dans le bon sens et ce qu'on porte, ça a du sens.
Résignée Christelle, qui a travaillé 29 ans ici, préfère au fond que la SAM ne devienne pas un enjeu de la campagne.
On veut des actes, on est dans le concret. Voir des politiques juste pour venir se faire voir, faire une jolie photo, faire une jolie image, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas devenir un enjeu. Mais on a bien vu que ce soit Goodyear, que ce soit d'autres entreprises, les pauvres, ils ont eu de belles images, mais après c'est tout, ça a fermé quand même. Donc nous, on compte que sur nous.
Et après 134 jours d'occupation de l'usine, ce qu'ils veulent, c'est conserver leur outil de travail dans l'attente d'un repreneur. Un dossier porté par la région est en cours de montage avec l'espoir pour tous de préserver ce bassin d'emploi.
Benjamin Péter à Viviers dans l'Aveyron pour Europe 1. Mauvaise surprise dans les chocolats Kinder. À moins de 2 semaines de Pâques, le fabricant Ferrero rappelle des centaines de tonnes de chocolat distribuées en France pour des suspicions de salmonelle. 21 enfants atteints de salmonellose, dont 15 ont mangé des Kinder. Plusieurs gammes sont donc rappelées, Carole Ferry.
Oui, alors notamment les The Kinder Surprise qui ont une date de péremption comprise entre juin et octobre 2022. Vous avez également les Kinder Chocobon et Mini Eggs et puis différents modèles Special Pack. Vous pouvez consulter la liste précise sur notre site internet europe1.fr. Si vous en avez à la maison, il est donc déconseillé d'en manger. Il est plutôt recommandé de prendre le produit en photo puis de le jeter. Vous pouvez ensuite demander un remboursement auprès de Ferrero. Alors pour le moment, il n'y a pas de lien avéré entre la consommation de ces produits et les contaminations, mais il y a une suspicion car toutes les personnes qui ont été interrogées ont en commun d'avoir mangé des œufs Kinder. Si vous craignez vous-même d'en avoir consommé, sachez que les symptômes sont des troubles gastro-intestinaux, des vomissements ou encore des diarrhées, souvent accompagnées de fièvre. Selon Ferrero, aucune trace de salmonelle n'a toutefois été retrouvée ni dans les produits testés en France, ni dans l'usine belge qui les a fabriqués. Les chaînes de production n'ont donc pas été suspendues.
Carole Ferry, deux quarts de finale aller ce soir en Ligue des Champions. Manchester City contre l'Atlético Madrid, toujours 0-0 à ce stade, tandis que Liverpool, de son côté, mène 2-1 face à Benfica. Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret, c'est en résumé, n'oubliez pas le parapluie.
Oui, il pourrait servir en fait. On a des petites pluies, des pluies faibles et éparses qui vont circuler du quart sud-ouest à la Lorraine et à l'Alsace en traversant le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, une grande partie de Rhône-Alpes. Les nuages et ces quelques pluies gagneront en journée tout le Massif alpin où la neige apparaîtra à 1800 mètres d'altitude. En revanche, les départements bordant la Méditerranée et la basse vallée du Rhône vont conserver du temps sec et lumineux, c'est du ciel voilé, à l'exception de la Corse, sous de bonnes pluies l'après-midi, c'est là où il pleuvra le plus d'ailleurs. Et puis dans les autres régions, de courtes éclaircies, de nombreuses averses aussi qui vont se déclencher avant la mi-journée près de la Manche. Elles gagneront ensuite la frontière belge, l'ouest parisien et les Pays de la Loire. On va retrouver des températures à peu près conformes aux moyennes de saison. Température positive le matin, donc pas de gelée Alexandre. Et puis les maxi oscilleront entre 12 et 15 en général. Il fera 13 sur l'île de Beauté et prévoyez 15 à 17 sur le pourtour méditerranéen.
Merci Marlène. Nouveau point météo avec vous à minuit. Dernière ligne droite de la campagne présidentielle. La parole aux candidates et aux candidats. Restez avec nous dans un court instant. Le porte-parole de Nathalie Arthaud.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Nous sommes donc à 5 jours du premier tour de la présidentielle. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Toute cette semaine sur Europe 1, on redonne la parole à tous les candidats avant le clap de fin, bien sûr, de la campagne officielle. Ce sera vendredi soir. Ce soir donc, Jean-Pierre Mercier, porte-parole de la candidate lutte ouvrière Nathalie Arthaud. Il répond à Louis Dragnel.
Bonsoir Jean-Pierre Mercier, bienvenue sur Europe 1. Jean-Pierre Mercier, vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière et vous soutenez Nathalie Arthaud pour l'élection présidentielle. On est à quelques heures du premier tour qui aura lieu ce dimanche, le 10 avril. Nathalie Arthaud l'a répété plusieurs fois, elle n'est pas candidate pour gagner. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi dit-elle cela?
Tout d'abord parce qu'on est quand même conscient de nos scores, mais surtout, d'abord et avant tout, vous savez, on se présente pour défendre une perspective, pour défendre des idées politiques et l'idée principale, c'est qu'il faut que les travailleurs s'organisent, s'unissent, se rassemblent et défendent leurs intérêts dans le combat social, dans les luttes sociales. Le bulletin de vote n'a jamais fait changer la vie des travailleurs. Ce qui fait changer la donne, c'est que les travailleurs imposent un certain niveau de rapport de force et puissent défendre leurs intérêts pied à pied en faisant grève, en occupant les entreprises, en descendant dans la rue, en manifestant. C'est avec le rapport de force, en reprenant le chemin des luttes sociales, qu'on pourra véritablement défendre nos intérêts. Et on va avoir besoin de combat social, on va avoir besoin de lutte sociale avec tout ce que les uns et les autres nous promettent, avec la situation aujourd'hui qui se dégrade très très largement, avec on va payer les conséquences de la guerre en Ukraine qui va aggraver la crise économique, qui va aggraver la déstabilisation de l'ensemble de l'économie mondiale.
Mais alors justement, vous parliez tout à l'heure de rapport de force politique, là vous parlez du rapport de force social dans la rue. Si on revient sur le rapport de force politique, pourquoi ne pas avoir uni vos forces avec Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste qui apparaît assez proche de vos idées?
Oui, nous sommes proches, mais nous sommes différents. Nous sommes très différents.
C'est quoi les différences fondamentales? On a du mal à voir entre le projet de Nathalie Arthaud et celui de Philippe Poutou.
Bah là, si on prend le dernier événement dramatique qui s'est produit au niveau de la guerre en Ukraine, il est certain que nous sommes très clairement contre les sanctions économiques. Nous sommes opposés à ce que les populations, la population russe se fasse punir par l'Occident. Les embargos, les sanctions économiques n'ont jamais fait plier les dictateurs.
C'est plutôt la ligne là pour le coup de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, Jean-Luc Mélenchon en tient plutôt ce discours-là et vous n'êtes pas si éloigné que ça quand même aussi de Jean-Luc Mélenchon.
Non,
on a une grosse différence, ne serait-ce que sur ce sujet, on a quand même une grosse différence, c'est que pour nous, la solution ne peut venir que des travailleurs russes, des travailleurs en Ukraine, des travailleurs en Occident. Imaginez si en Russie, vous aviez des dizaines, des centaines de grèves avec des millions de travailleurs qui se mettent en grève contre la guerre en Ukraine. Imaginez qu'en Occident, il y ait des millions et des millions de travailleurs mais qui se mettent en grève contre la vie chère, qui se mettent en grève contre les spéculateurs aujourd'hui.
Et je reviens sur cette idée quand même du rapport de force politique. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ne sont pas quand même des gens desquels vous êtes très éloignés. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas parfois de mettre entre parenthèses un certain nombre de différends et d'unir vos forces pour être peut-être un peu plus fort dans les urnes ?
On n'est pas pour le parti unique. Voilà, on est pour que chaque tendance, chaque parti puisse se présenter, défendre ses idées à la manière qu'ils le font. Voilà, nous on s'adresse d'abord et avant tout au camp des travailleurs, tous ceux qui ne vivent que de leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite. Nous sommes communistes révolutionnaires, on a une énorme différence avec Jean-Luc Mélenchon. C'est que lui, il dit « votez pour moi et vous n'aurez plus besoin de faire grève ni de manifester ». Nathalie a dit exactement le contraire. Elle dit « ce n'est que par la grève, que par les manifestations, que par le rapport de force sociale qu'on pourra faire changer la donne. Personne ne pourra faire face à ce fameux mur de l'argent, à ces milliardaires, à ces capitalistes du CAC 40. »
C'est eux. Il faut changer le système politique en France, selon vous? Parce que dans ce qu'on entend dans votre discours et dans celui aussi de Nathalie Arthaud, on a l'impression que le rapport de force politique, le combat politique est presque perdu et en fait tout doit se jouer dans la rue. C'est ça qui interpelle aujourd'hui.
Mais c'est aussi le système économique qu'il faut changer. Le système capitaliste et son système politique aujourd'hui en France sont complètement à bout de souffle. Oui, il faudrait du suffrage direct, il faudrait des élus révocables à tout moment. Il ne faudrait pas qu'on puisse élire quelqu'un pendant 5 ans et puis qu'une fois qu'il est élu, il fasse tout le contraire de ce qu'il a promis quand il était en campagne électorale. Ça, les gens en ont marre de ces promesses qui ne sont jamais tenus, sauf quand il s'agit de nous taper dessus, sauf quand il s'agit de nous faire les poches, sauf quand il s'agit de faire reculer l'âge de la retraite, de bloquer les salaires ou de diminuer les allocations. Ça, pour ça, ils tiennent leurs promesses. Là, on va assister à une explosion du budget de la défense. C'est autant de milliards en moins pour nos hôpitaux, pour nos écoles, pour les budgets sociaux.
Mais on a besoin aussi de se protéger. On a besoin d'avoir une armée pour se défendre. On voit bien, avec la crise ukrainienne qui est devant nous, tous les enjeux de retrouver une forme d'autonomie stratégique, de retrouver aussi une capacité à avoir cette souveraineté par rapport aux grandes puissances. Même la question se pose par rapport aux Américains.
Vous avez exactement le même discours que les responsables.
On n'a pas besoin
sous cette
défense.
Question, l'idée que vous avancez, c'est exactement les mêmes discours que l'on a entendus en 1912. En 1913, fin des années 30, c'est-à-dire qu'il fallait exploser les budgets de la défense parce que derrière, on se préparait à faire la guerre. Oui, moi, j'ai pas envie.
Mais on peut aussi se préparer à protéger notre pays. Enfin, c'est ce que disent en tout cas ceux qui tiennent ce discours-là.
C'est le proverbe des militaires. C'est pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour avoir la paix, il faut faire la révolution.
Bah, c'est une forme de guerre, quand même.
Ah, c'est une guerre sociale. L'objectif n'est pas de continuer la guerre économique que les États se font les uns contre les autres, que les grands groupes industriels se font les uns contre les autres pour se piquer des parts de marché, parce qu'on est en pleine crise économique, que les marchés ne s'étendent plus et qu'il faut absolument aller chercher la part de marché chez l'autre, quitte à le faire crever. C'est ça la logique aujourd'hui du système capitaliste. Nous, on est pour une guerre sociale. Oui,
ça, on l'a bien compris.
Une guerre sociale.
Jean-Pierre Mercier, une dernière petite question. Aujourd'hui, vous êtes crédité entre 0,5 et 1% dans les sondages. Vous êtes un militant politique, ce n'est pas votre première élection. Ce n'est pas un peu démotivant de se dire que vos idées ne sont pas créditées davantage dans l'opinion publique?
Non, ce n'est pas du tout démotivant. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on était à peine sorti, on n'est même pas en plus de sorti de cette crise sanitaire, de cette pandémie. On a la crise économique qui s'approfondit et là on rentre dans une période d'instabilité internationale avec une guerre qui nous pend au nez, enfin des discours guerriers, des tensions guerrières comme jamais ça n'a été depuis des dizaines d'années. Oui, on a eu raison de se présenter à ces élections, comme on se présente pratiquement à toutes les élections, et on présentera des candidats à toutes les circonscriptions législatives pour défendre cette perspective qui est de dire qu'il faut que les travailleurs prennent leur sort en main, ils font fonctionner toute la société, c'est à eux de la diriger.
Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier d'avoir accepté de répondre à nos questions et on vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Et merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. C'était donc Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière. Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui repère toute son avance gagnée hier. Hein.
Oui, ça fait du yo-yo. Il n'y avait pas beaucoup de volume hier. Ça retombe. Moins 0,8% sur le Dow Jones. 34 641 points. Le Nasdaq surtout. Moins 2,26%, 14 204 points. La réserve fédérale américaine a haussé le ton en appelant à une hausse des taux rapide pour maîtriser l'inflation qui s'emballe. Du coup, les taux longs se tendent encore autour de 2,5% sur l'emprunt à 10 ans. Et les banques baissent assez nettement. JP Morgan, moins 1,1%. Morgan Stanley, moins 2,2%. Les valeurs de technologie rechutent. Apple, moins 1,9%. Microsoft, moins 4%. Tesla perd pratiquement 5%. Il y a quand même Twitter qui résiste, plus 2% après sa forte hausse d'hier. Après l'entrée d'Elon Musk au capital de Twitter, on est à plus de $50 l'action. L'euro revient à 1,09 face au dollar ce soir.
La bourse de Paris, elle a rechuté de 1,3% avec les banques et l'automobile.
Oui, pareil, hein, moins 1,28%. Ça rechute effectivement 6645 points. Et comme à chaque rechute, eh bien, c'est le secteur bancaire qui accuse le coup. Société Générale, moins 5,5%. Crédit Agricole, moins 5%. BNP, moins 4,5%. Les industriels, effectivement aussi. L'automobile Faurecia, moins 6% avec Renault. Et puis Stellantis qui perd 3,5%.
Exception du jour, Didier, les valeurs pétrolières qui remontent dans le sillage du baril de brut.
Oui, dans la journée, on était monté à $110 le baril de Brent. Et Esso s'est enflammé une nouvelle fois. Plus 24% le titre à 38,90€. Alors que l'on reparle aussi d'un rachat complet de la société par sa maison mère, l'Américain Exxon. Donc Esso en hausse de 24%. Et puis Morel et Prom aussi, plus 8% à 4,63€. Ailleurs, les autres places financières reculent. Le DAX, moins 0,6. Amsterdam, moins 0,2. Milan, moins 0,9. Et le CAC 40, moins 1,28%. 6645 points.
Merci Didier Hamot. Notre invité éco sur Europe 1, Olivier Colcombet. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Président du réseau immobilier Optimum. C'est un réseau de conseillers immobiliers. Alors d'abord, peut-être pour le présenter en quelques mots, Olivier Colcombet, vous proposez concrètement un accompagnement aux candidats à l'achat de biens immobiliers.
Oui, tout à fait. Optimum, c'est un réseau historique de conseillers indépendants, pionniers de l'industrie et qui permet donc à des Françaises et des Françaises de se lancer dans cette activité en étant tout particulièrement accompagnés. Eux investissent leur motivation et leur temps et nous les formons, nous leur apportons tous les outils digitaux, physiques et autres pour se lancer dans cette activité en tant que patron, qu'indépendant.
On va essayer de voir avec vous, hein, d'avoir la photo la plus fidèle possible du marché immobilier après 2 ans de Covid. Hein. C'est vrai, comment se porte le secteur justement après cette crise sanitaire ?
Alors c'est très intéressant parce que les années 2020 et 2021 ont présenté des variations saisonnières très inédites, hein, avec des coups de frein et des coups d'accélération soudains. Mais il est à noter, c'est important, que les 3 dernières années, 2019, 2020, 2021, c'est plus d'1 million de transactions. Et en 2021, c'est même 1 100 000, 1 125 000 transactions. Donc un niveau record, 25% plus haut que le dernier palier, qui était les années 2000.
Donc là, on est clairement dans un retour de balancier après le Covid ?
Non. Après le Covid, on continue. On aura très probablement des volumes un peu inférieur en 2022, mais toujours supérieur à 1 million d'unités. Donc on est toujours sur des niveaux très très élevés et très encourageants.
Je veux dire par là également, Olivier Colcombet, est-ce que cette crise sanitaire, on a des éléments de réponse déjà derrière nous, mais est-ce que vous pensez que ça a modifié durablement les attentes des Français justement en matière de logement ?
Alors, il y a quelques fondamentaux et il est important pour vos auditeurs acquéreur tout particulièrement d'être très réactif, puisqu'on a une rareté de l'offre. Et ça, c'est une baisse de 30% des annonces et des biens à la vente entre juin 2019 et janvier 2022. Donc, rareté de l'offre.
Qui s'explique comment ? C'est lié à la ruée, justement, sur, je ne sais pas, prendre la clé des champs, peut-être, en particulier ?
Effectivement, il y a un appétit des Français à l'achat. ça génère un excès, si je puis dire, même s'il n'y en a jamais trop, d'acheteurs versus le nombre de biens à vendre. Et ce déséquilibre offre-demande eh bien, a entraîné une augmentation des prix, stimulé bien sûr encore par des taux très compétitifs et un très gros appétit des Français, effectivement, pour revoir leur mode de vie, pour s'installer dans des espaces plus larges, pour accéder à un espace extérieur, une terrasse, un jardin, un balcon. Voilà, donc un mieux-être qui, dans l'esprit de nos concitoyens, passe effectivement par un habitat plus vaste et plus adapté à leurs attentes et aux modifications sociales et sociétales de la vie française, bien évidemment.
Donc on va pas forcément, on ne change pas forcément radicalement, on ne passe pas forcément d'une capitale à la campagne, on cible également des villes moyennes.
Alors ça, c'est un élément intéressant. Les métropoles, entre autres les métropoles régionales, ont présenté un réel intérêt ces 3-4 dernières années. Et puis nous avons vu pendant cette tension sur l'offre, eh bien, un déploiement sur les annexes des villes secondaires qui sont des satellites des métropoles régionales.
Par exemple, vous pensez à quelle ville ?
J'ai Angers qui est très, très demandé. Vous avez des villes comme Chambéry, des villes... Alors Grenoble qui reprend le vent en poupe après des années un peu plus délicates. Donc des villes qui sont très bien connectées, tant sur les métropoles régionales, Paris, Lyon, Marseille, enfin, ou que la capitale, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'on a pu entendre des commentaires type exode rural et autres. Moi, je ne participe pas à ce genre de propos. Ce qui est certain, c'est que les villes périphériques des métropoles, les maisons avec jardin, le report aussi vers une campagne un peu plus éloignée parce que je n'arrive pas à accéder à un bien dans une métropole régionale pour des raisons de prix ou de rareté, eh bien font qu'il y a un redéploiement sur des villes un peu secondaires.
On a entendu parler de...
Je finirai en disant qu'on voit aussi un regain sur les résidences secondaires, dont la fameuse maison de campagne qui avait un peu disparu ces 15 dernières années ou qui avait moins d'attrait, dirons-nous.
On a entendu parler aussi pendant la crise sanitaire de cette ruée vers l'ouest, Olivier Colcombet, l'attrait pour la Bretagne en particulier. Est-ce que ça se vérifie encore aujourd'hui, cette façade atlantique qui attire de plus en plus de Français ?
Alors, chez Optium, et nous ne sommes pas les seuls, il y a effectivement une très forte proximité, entre autres avec la région parisienne. Et cet ouest, quand vous ajoutez aussi... le climat de plus en plus tempéré, si je puis dire, attrayant. Hein, tout ça a effectivement créé un engouement sur cette très belle région qui se réchauffe, qui est proche de Paris, qui est très agréable. La douceur angevine, c'est un peu plus au sud, mais est dans ce cap aussi. Et puis, une qualité due aussi par la sécurité. Il y a tout un phénomène, des petites briques qui s'accumulent et qui sont très favorables, effectivement, à cette région de l'Ouest que les Français n'ont pas redécouvert, mais ont repris goût et l'investissent durablement à mon goût, à mon sens.
Merci à vous Olivier Colcombet, président du réseau Optimum, réseau de conseillers immobiliers implantés partout en France.
Merci.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, partenaire bancaire des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Les Unes des quotidiens pour demain matin, mercredi 6 avril, à l'approche du premier tour, J-4 demain matin, Le Figaro revient sur la bataille des programmes, privilégiant souvent un catalogue de propositions plutôt qu'une vision d'avenir. Les candidats ont eu des difficultés à se faire entendre dans cette campagne, écrit Le Figaro, hors du pouvoir d'achat, des questions d'identité nationale, du travail et des angoisses liées bien sûr à la guerre en Ukraine, eh bien, peu de thèmes ont réellement franchi le mur du son. Même les slogans semblent avoir eu du mal à être entendus. On est loin, écrit encore Le Figaro, de la force tranquille de François Mitterrand ou bien de la fracture sociale de Jacques Chirac. L'opinion s'intéresse aux grandes manœuvres de Nicolas Sarkozy, alors que l'ancien chef de l'État, qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse dans cette campagne, n'écarte pas l'idée de pousser LR à travailler avec Emmanuel Macron. Il se heurte en cela à l'hostilité d'une partie de sa famille politique. Et puis les jeunes ont leur carte en main, la carte électorale, à 4 jours du premier tour de la présidentielle, c'est la une de 20 minutes, 67% des 18-30 ans se disent désormais intéressés par l'élection. 22h30, vous êtes sur Europe 1 et il est grand temps pour vous de retrouver la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Comment allez-vous, Olivier ?
Écoutez, je vais assez bien.
Avez-vous votre carte d'électeur dans la poche, Olivier ?
Non, elle n'est pas dans ma poche, mais elle n'est pas loin.
Elle n'est pas loin.
Elle n'est pas loin.
Ça se rapproche maintenant.
Oui,
hein.
D'ailleurs, c'est la première fois que je vais voter par procuration, imaginez-vous.
Ah d'accord. Il y a encore temps, d'ailleurs.
À faire toutes les démarches, oui, voilà. Aujourd'hui.
Bon.
Parce que je serai à Nice.
Vous serez
tournage,
à Nice, d'accord.
Donc je ne pourrai pas voter dans ma petite...
À proximité de votre bureau de vote, oui.
Voilà, je vote à Guichainville, qui est mon petit village, enfin un village... où j'habite, dans l'Eure.
Bon, mais vous remplirez votre devoir d'électeur.
Exactement, c'est très important, et plus que jamais, il faut aller voter. On voit tous ces jeunes, hein, d'ailleurs, qui ont des cartes, et on voit combien cette carte, elle est importante pour beaucoup de jeunes. Donc il faut suivre l'exemple de tous ces petits jeunots là, qui savent que voter, c'est un droit, et que beaucoup sont morts pour ce droit. Il y a eu beaucoup de sang versé pour qu'on puisse avoir cette liberté. Donc c'est très important d'aller voter dimanche. Et bien évidemment, le dimanche d'après ou il y a 15 jours ?
Il y a 15 jours, oui.
Comme en Champions League.
Entre le premier et le second tour.
Exactement.
Exactement.
Bon, et vous allez aller voter aussi ?
Et bien sûr.
À Paris ?
À Paris.
Bon, en vélo, on dépasse les autos.
À pied même.
Très bien, on vous retrouve tout à l'heure à 23h pour votre flash, mon cher Alexandre.
À tout à l'heure.